Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, avec Michel Simès.
Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour, ravi de vous retrouver en ce 11 avril avec la petite bande Emma Strack, Patrice Romden et Christophe Brun. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Michel.
Bonjour Michel Simès.
Les amis, que s'est-il passé le 11 avril 1865?
Oula,
c'était le lendemain du 10, 1865. Quelqu'un est né?
Non. Et je vais vous donner un indice, Louis Pasteur.
Ah, il n'a quand même pas trouvé le vaccin à ce moment-là?
Non, c'est plus tard qu'il l'a trouvé. Ouais. Mais il a
eu son bac.
Il s'est marié.
Non, il s'est marié.
Je voulais juste vous dire que le 11 avril 1865, Louis Pasteur s'était marié. Non, pas du tout. C'est là où il dépose son brevet sur la méthode de chauffage du vin qui portera son nom.
Ah, parce qu'il a fait ça aussi.
Ouais. La pasteurisation.
Ah, bah d'accord, oui.
Bien sûr. Mais oui, bah alors, bien Patrice, sûr. Vous
c'est
me décevez.
Vrai qu'il y a un point commun.
Vous qui êtes l'intellectuel du groupe.
Bon, c'est pas compliqué non plus.
Et la pasteurisation, je vous en parle aujourd'hui, on y reviendra dans quelques instants parce que Christophe va nous parler de la bière et que la pasteurisation de la bière s'effectue avant ou après le soutirage et avant le conditionnement. Ça consiste à chauffer la bière durant 20 minutes à 60 degrés. On en parlera dans quelques instants. Au sommaire, Emma, aujourd'hui.
Ben, on va être pas mal entre la bière et la détente parce que la semaine dernière, je vous ai promis de me pencher sur la gestion du stress. Eh bien, nous y voilà. Donc, vous prenez une grande inspiration, vous souriez, vous expirez et on explore différentes pistes pour se sentir apaisé dans quelques instants.
Patrice.
Il descend de l'avion, il embrasse la terre. À genoux sur le sol, comme on fait sa prière.
Vous avez reconnu Pierre Bachelet, un homme en blanc qui descend de l'avion et qui embrasse la terre. De qui peut-il bien s'agir? De Jean-Paul II. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie de Parkinson et nous en parlons à travers ce pape qui a régné de 1978 à 2005 et a souffert de cette maladie.
Christophe.
Vous l'avez pas celle-ci. Hein.
Comment est-ce possible?
Et c'est une chanson, non pas de Kenji Girac, mais de Kenji Girafe, ouais. Qui s'appelle non pas Ma belle Andalouse, mais Ma belle Binouze. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de la compagne de beaucoup de sportifs qui veulent se faire plaisir après l'effort en buvant une bonne bière. Mais tout doux, hein. C'est très bon la bière, mais il faut pas en abuser pour qu'elle reste.
RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Alors, Emma,
oui.
C'est à vous. Et il y a les vacances scolaires qui peuvent aider certains à débrancher. Mais aujourd'hui, vous vous adressez à tous et vous nous proposez trois pistes pour se relaxer.
Oh là là, on en a bien besoin. Avec la crise sanitaire, on est tendu par l'actualité, stressé par l'avenir aussi. Or, on le sait, le stress peut générer des soucis en cascade sur le plan de la santé cardiovasculaire et sur les dents, comme on l'avait vu ensemble la semaine dernière.
Et on va donc se détendre ce matin et vous proposer des trucs tout simples, alors notamment des Legos, c'est ça, hein, parce que je vois pas trop le rapport.
Oui,
mais...
alors parce qu'il ne s'agit pas de construire un château fort en briquettes, mais d'écouter ceci. Vous reconnaissez ce bruit?
Ah bah oui.
Hein, vous voyez là votre main qui plonge dans la caisse de Lego.
Pour aller chercher la bonne.
Bah voilà, ah, exactement. Oui. Bah figurez-vous que ce son, il fait partie d'une playlist qui a été mise en ligne par la marque Lego sur une plateforme d'écoute pour se détendre. En fait, Lego participe au phénomène en vogue de ce qu'on appelle l'ASMR.
Et là, vous avez besoin de moi?
Oui, s'il vous plaît.
Avec l'accent, Michel.
Autonomous, Sensory, Meridian. Réponse, everything is all fine. Et en français, ça donne réponse autonome sensorielle culminante. Je ne suis pas sûr que ça clarifie les choses, mais il y a quelque chose de plus explicite peut-être.
Ouais, je vais vous montrer à quel point c'est un phénomène en ligne. Il y a des vidéos qui sont vues des dizaines de milliers, voire des millions de fois d'ASMR, mais en réalité, ce n'est pas tant l'image que le son qui importe. Et c'est pour ça que je peux vous en parler à la radio. Je vous propose un petit aperçu sonore, donc tendez l'oreille parce que ce sont généralement des bruits plutôt légers. Donc, on écoute le premier.
Les chevaux.
Alors là, non, ce sont des ongles en fait
ah oui,
qui
d'accord.
tapent ou qui grattent contre oula. Des sortes d'écailles colorées. Je vous en fais écouter un autre.
Allez-y. Une pelletée de sable.
Non.
C'est la brosse qui passe dans les cheveux. Celui-ci, plus subtil.
Ça, c'est de l'eau qui goutte.
C'est le bruit de baiser sur des doigts. Et
attendez, le baiser sur des doigts.
Mais c'est quelqu'un qui a les dents qui sont
proches. Des tout petits bisous, non, en fait, ce que vous entendez, c'est les lèvres, mais ils ont été un peu boostés ici.
Mais qui s'embrasse les doigts?
Moi.
Je comprends pas.
Moi, à chaque fois que je dis je suis formidable, je fais... Ah,
parce que le baisement, on ne doit pas
toucher. Non, on ne doit pas baiser les
doigts. Vous ne faites pas encore d'ASMR, vous allez découvrir un monde nouveau. Je vous fais écouter celle-ci.
They're yours. Being an audible member is fantastic.
Ça, c'est ça, quand, c'est quand elle se parle.
C'est quand elle est contente. Non,
en fait,
c'est
ça,
après. C'est après. Quand c'est elle après. Me remercie.
Voilà. Là, on a tout le truc de l'ASMR, c'est-à-dire des chuchotements, de la respiration, des petits bruits de bouche. Mmh. Est-ce que ça vous fait quelque chose?
Le dernier, oui.
Un petit frisson.
Les ongles, un peu moins, mais le dernier, oui.
Eh bien, les fans d'ASMR viennent y chercher ce que certains décrivent comme étant un orgasme cérébral, une sensation de bien-être sensoriel qui peut permettre de se relaxer, puisque certains l'utilisent pour s'endormir, notamment.
L'orgasme cérébral, c'est bien quand même.
C'est peut-être un peu excessif comme terme, non? Alors, en tout cas, la science, elle dit quoi?
Alors, deux études publiées dans PLOS ONE en 2018 ont constaté que l'état de bien-être était en effet augmenté chez les personnes ayant visionné des vidéos d'ASMR. Mmh. L'une d'elles montre aussi que l'ASMR est associé à une baisse de la fréquence cardiaque et à une hausse de ce qu'on appelle la conductance cutanée. C'est quoi, Michel? Est-ce que c'est bien un état d'excitation psychologique? Ça vaut de dire ça ou pas?
La conductance cutanée, c'est quand j'entends votre voix et que j'ai les poils qui se hérissent sur ma peau.
Ah oui, c'est ça. Et la conclusion de ces études, c'est que l'ASMR peut avoir des avantages thérapeutiques pour la santé mentale et physique.
Emma, on rappelle deux autres techniques éprouvées pour limiter le stress.
Eh oui, on en a déjà parlé ici, mais j'y reviens parce que c'est trop important. La cohérence cardiaque, c'est une respiration guidée qui permet de contrôler le rythme cardiaque. Et ça, c'est avéré. Hein. Ça réduit le stress, ça réduit la tension, l'anxiété. Pour vous y mettre, je vous suggère une appli toute simple et gratuite qui s'appelle... Alors, elle a changé de nom maintenant. C'est Respi Relax Plus. Elle est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est hyper facile à utiliser. Franchement, essayez.
Et puis enfin, il y a la méditation.
Oui, là aussi, la science a parlé. Elle permet de mieux résister au stress et à la dépression. Et pour s'y mettre, là aussi, il y a plein d'applis. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux, notamment pour trouver la voix qui vous plaît le plus, parce que cette voix-là va vous accompagner. Et je rappelle bien sûr qu'une autre pratique excellente pour lutter contre le stress, c'est l'activité physique. Vous sortez marcher, évidemment. Courir, faire un tour de vélo, de la corde à sauter. Vous suivez un tuto en ligne, ça coûte pas cher et franchement, ça peut changer la couleur de vos journées.
Alors, chers auditeurs, vous qui nous écoutez le dimanche matin, vous êtes peut-être encore couchés, je vous propose, ne me remerciez pas, un orgasme cérébral. Écoutez.
Ça fait du bien le dimanche matin, non?
It's in English.
Yes. Ouais. Merci beaucoup, Emma. Alors, je ne sais pas si vous aussi, vous faites ça. Parfois, pour me détendre, j'écoute de la musique classique, plutôt quand je suis un peu speed, une musique un peu douce. Je fais attention presque inconsciemment au tempo de la musique que j'écoute. Pour vous détendre, Emma, vous écoutez de la musique aussi ou pas?
Sur vos conseils, je me suis mise à la musique classique. Et sinon, moi, je suis assez fan du silence pour me détendre, je vous avoue.
Ah, très bon. Ouais. Bon, on va se taire. Christophe?
Ouais, et moi, j'écoute des reprises de chansons très connues, mais très lentes. Il y a des artistes qui sont spécialistes et qui chante. J'ai trouvé une version de Voyage Voyage par une jeune artiste qui s'appelle Lisa Dan.
Ah, j'ai entendu
ça. D-A-N-N, Lisa. Écoutez ça, c'est juste génial.
Mmh. Voilà. Ça vous apaise.
Ah oui, vraiment.
Et Patrice?
Patrice, oui. Musique, classique notamment.
Patrice, il parle de lui à la troisième personne.
Par mots-clés.
Non, mais les valses de Chopin, les impromptus de Schubert.
Tout ça apaise, ça calme.
Mais bien sûr, les sonates de Beethoven, bien sûr.
Et on va en parler avec Emmanuel Bigan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur chercheur en neurosciences cognitives à l'Université de Bourgogne, co-auteur avec Barbara Tillman de la symphonie neuronale Pourquoi la musique est indispensable au cerveau chez Human Science. Tout ce qu'on vient de dire là sur le côté apaisant de certaines musiques liées, d'après ce que j'avais lu, au tempo, c'est des choses qui ont été prouvées.
Lorsqu'on écoute de la musique, en fait la musique c'est du mouvement humain en son. Donc l'énergie qu'il y a dans cette musique vous parle en termes d'énergie du corps humain. Donc si cette énergie est relativement calme, ben ça vous calme, parce que par le jeu des neurones miroirs, si vous voulez, ben vous allez vous ajuster à ce rythme-là. Et on a pu montrer cela sous vraiment de très très nombreuses formes. Ça peut aller dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'on peut vous aider à faire des exercices un petit peu plus intenses par la musique. Donc ça va dans les deux sens.
Mais ça veut dire qu'on pourrait même faire, alors pour les amateurs de sport, on parle de fractionner quand on essaye d'accélérer le cœur pendant un effort pour pousser un peu les limites cardiaques, ce qui permet de pouvoir faire des efforts plus prolongés. On pourrait faire du fractionné rien qu'en écoutant des musiques.
Oui, oui, non seulement on peut le faire, mais c'est même des techniques de coaching sportif qui sont tout à fait avérées. Et pour tout vous dire, l'utilisation de la musique dans les compétitions internationales est interdite par le règlement, notamment dans les marathons, parce que c'est considéré comme une drogue.
Ah oui.
Ah, c'est un dopage. Christophe.
Oui, alors sur un tout autre terrain, on dit que, alors on dit ou on ne dit pas, il y a deux écoles là-dessus, je voudrais avoir votre avis, qu'il ne faut pas écouter de la musique quand on travaille. Moi, par exemple, quand je travaille, j'aime bien avoir une petite musique, ça ne me gêne pas, je suis concentré,
je travaille. Je travaille qu'en musique, moi.
Et des gens disent que non. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est tout à fait juste. Il y a deux effets et il faut savoir manipuler ces effets. C'est-à-dire que les effets de la musique, ce n'est pas noir ou blanc. C'est quand même un peu plus subtil. Donc, en fait, ce que vous gagnez d'humain parfois en écoutant de la musique, vous êtes plus motivé, vous avez plus d'énergie. Vous pouvez le perdre de l'autre si cette énergie, vous l'attribuez à écouter la musique et pas à faire votre boulot, quoi. Par contre, si vous faites bien les choses, vous pouvez utiliser la musique pour augmenter vos compétences au travail. Et ça, dans le milieu de l'entreprise, on le fait. Il faut juste être, faire pas n'importe quoi et travailler avec quelqu'un qui connaît le domaine, quoi.
Et puis, faire en télétravail, il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, travaillent en musique. Patrice.
La musique, il y a celle qu'on écoute et il y a aussi celle qu'on joue, qu'on est capable de jouer. Je lis un peu partout qu'elle améliore la connectivité du cerveau. Est-ce que, un, c'est vrai, et deux, plus on commence jeune, mieux c'est ?
Il faut imaginer quand vous jouez de la musique, c'est tout le cerveau qui va se connecter, qui va synchroniser, donc ça augmente la connectivité dans des tas de régions du cerveau. Donc c'est pour ça que la musique aide au développement cognitif en général. Ce qui est très important de savoir, c'est que même si vous commencez tard, on a pu montrer qu'au bout de 4 mois de pratique à dose relativement homéopathique de la musique chez des seniors, eh bien, ça rajeunit leur cerveau. Donc ça, c'est super bien. Ça veut dire que la musique s'ajoute au sport comme un bon moyen de lutter contre le vieillissement cognitif. On ne peut pas être contre.
Emmanuel Bigan, une dernière question. Le titre de votre livre, c'est « Pourquoi la musique est indispensable au cerveau ». Est-ce que ça veut dire qu'un cerveau, une personne qui n'écouterait jamais de la musique n'aurait pas un développement cérébral normal ?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est un peu la même question qu'on pourrait transposer dans le domaine du langage. Est-ce qu'une personne qui serait privée de communication linguistique et d'échange social aurait un développement cérébral différent ? On a le cas des enfants sauvages, mais on a des cas d'enfants sauvages modernes, si je peux dire aujourd'hui, qui montrent que le cerveau est perturbé. Ça ne veut pas dire que le cerveau n'a pas fonctionné, mais une personne qui serait privée de toute interaction musicale ou de musicalité, oui, aurait un fonctionnement différent. Pas forcément pathologique, mais différent certainement.
Merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre que vous avez écrit avec Barbara Tillman, La symphonie neuronale, pourquoi la musique est indispensable au cerveau chez Humaine Science, un domaine assez passionnant. Merci beaucoup pour vos explications.
Merci.
Et dans quelques instants, nous retrouverons la partie 2 de l'émission avec le mélomane de la bande, Patrice Romden. Vous avez un truc à dire, Patrice ?
C'est Debussy.
Je ne sais pas de qui c'est.
Tout de suite.
Michel Simès sur RTL. Ça va beaucoup mieux, l'hebdo. RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. Biały pielgrzym ciemną
drogą idzie pośród chmur. Patrice, c'est quoi encore cette nouvelle trouvaille musicale ? Je vous prie.
Eh bien, c'est une chanson enregistrée par plusieurs célébrités polonaises en hommage à Jean-Paul II. Ça date de 2020 pour le centenaire de la naissance de l'ex-pape.
Eh bien, figurez-vous que ce single m'avait complètement échappé. Ah, alors, tiens. Un disque pour le pape, il fallait y penser, mais c'est vrai qu'il était quand même très populaire, Jean-Paul II.
Oui, un grand communicant qui, dès son élection en 78, détonne avec le style pontifical auquel est habituée la planète à l'époque. Rappelez-vous, c'est dans sa résidence estivale de Castel Gandolfo qu'il ouvre son premier chantier pontifical. Il fait construire une piscine. Ça, c'est la première décision. Et à défaut de marcher dessus, eh bien, le pape se meut dans l'eau avec une aisance qui ravit les dévots. Le monde s'entiche d'un pape sportif, solide gaillard de 58 ans, différent de ses prédécesseurs, et pas seulement parce que c'est le premier pape non italien depuis plus de 500 ans.
Ah voilà, mais un quart de siècle plus tard, hein, c'est le même homme qui affaiblit, courbé, sénile et quasi impotent, affiche sa déchéance. Chacune de ses apparitions publiques se fait dans un fauteuil roulant. Il dit la messe, laisse assis. Il n'articule presque plus. En outre, il tremble de tous ses membres, ce qui laisse peu de place au doute. Hein. Il souffrait de la maladie de Parkinson.
Alors cette maladie, qui porte le nom du médecin anglais qui l'a décrite pour la première fois en 1817, affecte le système nerveux central. Elle se traduit par des troubles moteurs et, une fois en marche, eh bien, ne cesse d'évoluer. Elle nous donne à voir un pape de plus en plus penché en avant, aux gestes rares, aux gestes lents, sujet à une hypersalivation qu'il ne contrôle plus et qui tremble d'autant plus que le moment exige concentration.
Alors ce qu'on sait moins, c'est que Jean-Paul II n'a pas eu que la maladie de Parkinson à gérer.
Alors d'abord, il garde les stigmates de l'attentat, rappelez-vous, dont il a été victime en 1981, dans la foulée duquel il a été transfusé. Et dans les années 90, ce sont des ennuis en cascade. En 92, on lui retire une tumeur intestinale. En 93, luxation de l'épaule. En 94, fracture du col du fémur. En 95, il est pris de nausées. Il interrompt la bénédiction Ubi et Orbi. Les caméras du monde entier ont à peine le temps de s'en remettre que déjà, on le dit souffrant d'une appendicite et puis viendra aussi le temps de l'arthrose.
Puis tout au long de ces années, la maladie de Parkinson va progresser, bien sûr, en dépit de la présence au chevet du Saint-Père des plus grands médecins, des plus grands spécialistes du monde.
Oui, tous se rappellent un homme, alors je cite, en mauvais état, mais doté d'une bonne intelligence, sauf qu'à un moment, trop c'est trop, Jean-Paul II a 84 ans lorsque la grippe le rattrape et il s'éteint le 2 avril 2005.
Alors vous parliez du médecin qui a donné son nom à la maladie, le neurologue Parkinson. Alors ça va vous parler en ce moment. Sachez qu'il appartenait, on ne le sait pas beaucoup, à une école de pensée qu'on appelait le catastrophisme, qui professait avec conviction que la géologie et la biosphère de la Terre avaient été façonnées par des cataclysmes récents à grande échelle. Alors il prenait un exemple, le déluge, qui est décrit dans la Genèse, et il était absolument convaincu que la création et l'extinction des espèces étaient des événements guidés par la main de Dieu. Sa vision du créationnisme était que chacun des 6 jours de la création mentionnés dans la Bible correspondait en fait à une période beaucoup plus longue qui avait peut-être duré des dizaines de milliers d'années. Ça, c'était Parkinson qui a donné donc son nom à cette maladie. Docteur Valérie Ménage, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes neurologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. J'ai voulu vous prendre en ligne parce qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de maladies neurodégénératives en France et dans le monde entier d'ailleurs. Alors, on parlait avant de démence pour tout ce qu'on n'arrivait pas à diagnostiquer, de démence sénile notamment, ce qui était terriblement péjoratif. On ne parle plus de tout ça, bien sûr. Est-ce qu'il y a plus de cas ou est-ce que c'est parce que la population vieillit et puis aussi parce qu'on diagnostique plus ces maladies aujourd'hui ?
Probablement qu'effectivement la première cause est liée au vieillissement de la population. Dire qu'on les diagnostique plus aujourd'hui, non, dans la mesure où par ailleurs, et c'est ce qui peut paraître aussi surprenant, le diagnostic reste purement clinique. Pour un diagnostic avec une telle portée, il est vrai que c'est parfois difficile à comprendre. Donc l'innovation technologique ne sert pas forcément à un diagnostic précoce dans cette pathologie.
Oui, autrement dit, quand on fait des IRM du cerveau, on ne peut pas faire un diagnostic en disant c'est un Parkinson parce que dans le locus niger, qui est la partie qui est touchée dans cette maladie, on voit quelque chose de particulier. C'est ça que vous voulez nous dire ?
Absolument. Les examens d'imagerie conventionnelle sont normaux dans cette affection.
Et vous pensez qu'un jour on trouvera une imagerie qui permettra de faire le diagnostic précoce pour le Parkinson, par exemple ?
Alors, diagnostic précoce, on peut peut-être quand même préciser qu'il existe aujourd'hui un examen d'imagerie nucléaire qui permet d'objectiver cette pathologie par la diminution de fixation d'un traceur à la dopamine, mais qui n'est pas indiqué dans le diagnostic de la maladie de Parkinson, mais dans d'autres cadres étiologiques.
Patrice.
On associe systématiquement la maladie de Parkinson au tremblement, peut-être parce que c'est ce qu'il y a de plus visuel, de plus visible. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes plus discrets ?
Absolument. Et d'ailleurs, le symptôme phare de la maladie, ça n'est pas le tremblement, c'est le ralentissement, ce qu'on nomme autrement akinésie. Et il est des situations où il n'y aura jamais de tremblement tout au long de l'évolution de la maladie.
Christophe.
Oui, on a vu que le pape était donc quelqu'un d'actif, qui faisait du sport, donc il n'a pas échappé à la maladie. Et est-ce qu'en revanche, je pense notamment à un grand boxeur, Cassius Clay, donc Mohamed Ali, qui a eu la maladie de Parkinson, est-ce que c'est lié au fait qu'il a pris des chocs, lui, toute sa vie en étant boxeur ?
Alors oui, le fait d'avoir des chocs itératifs peut avoir été évoqué comme un facteur précipitant. Maintenant, vous citez des cas très particuliers. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas d'éléments ou de conduites particulières qui vont conduire à l'émergence des symptômes.
Oui, bien sûr. Et puis, il y a des traitements qui, heureusement, sont efficaces. Un dernier mot très rapide. L'injection de cellules. On sait que le Parkinson, c'est lié à un manque de dopamine, qui est un neurotransmetteur très important dans le cerveau. Est-ce que l'injection de cellules qui pourrait de nouveau sécréter cette dopamine qui manque est toujours d'actualité ?
Alors, il y a un certain nombre de recherches en cours qui visent effectivement à restaurer la fonctionnalité des neurones dopaminergiques. On n'est pas encore sur une application pratique rapide.
Merci beaucoup, docteur Valérie Ménage. Je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Merci pour ces explications. Emma, un petit mot avant de passer...
Ah bah, une information de premier plan que je tire de mon ouvrage de référence. J'ai nommé « La vie rêvée des morpions ». Une étude datant de 2013 montrait que la mode de l'épilation partielle ou totale de la région pubienne avait entraîné la quasi-éradication des morpions. Voilà.
Ah bah, ils n'ont pas à où s'accrocher.
Alors, voilà. Le revers de la médaille, exactement, c'est que les poils...
Obligatoire. Le revers de la médaille obligatoire.
Ah, oui. C'est que les poils ont quand même un intérêt, notamment contre les bactéries, et que l'épilation peut provoquer des irritations et amener des herpès ou des staphylocoques.
Eh ben, très bien, vous avez de très très bonnes lectures. Bonne un lecture. Jour, vous ne voulez pas nous faire une chronique uniquement consacrée aux morpions ?
Avec joie.
Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 3, le jeu et notre invité.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Et c'est la partie 3, la partie tant attendue, notamment avec le jeu, avec un auditeur tout à l'heure. Mais tout d'abord, nous allons faire la partie QI, question à l'invité. Et notre invité aujourd'hui, c'est Stéphane Guillon. Bonjour.
Bonjour Michel.
Alors Stéphane, la première question qu'on pose souvent à nos invités dans l'émission, c'est comment fait-on quand on est un artiste et que depuis un an, on n'a pas pu faire de scène ?
Eh ben écoute, on ronge son frein et surtout on ne se plaint pas parce qu'il paraît que nous sommes des privilégiés, donc on n'a pas le droit de se plaindre. Donc on ferme sa bouche et puis on vit d'un goût d'eau fraîche.
Il y a eu un peu de temps pour écrire ou finalement le cerveau est au repos aussi ?
Non, il y a beaucoup de temps pour écrire. On prépare, tu sais, c'est comme un paysan quoi. On tourne la terre, on sème.
Alors d'abord, on va faire un petit peu de promo quand même. L'actu c'est quoi ? C'est un film, un téléfilm qui va être diffusé sur TF1 ?
Exactement, qui s'appelle Le Remplaçant, avec Joe Star, Barbara Schulz et plein d'acteurs magnifiques. Et c'est ce qu'on appelle un pilote, c'est-à-dire que TF1 a financé, a produit 2 épisodes. Et si ces 2 épisodes marchent, il y aurait une suite.
D'accord. Alors, Stéphane... Il y a aussi une petite histoire médicale que vous avez vécue dernièrement. J'aimerais bien que vous nous la racontiez.
Eh bien, figurez-vous que j'avais une sorte de boule d'excroissance entre le sourcil et la paupière qui apparaissait et disparaissait, qui me faisait souffrir. Je ne savais absolument pas ce que c'était. C'était disgracieux, hein, surtout quand on est acteur comme moi, avoir ce truc comme ça qui apparaissait, disparaissait, c'était très emmerdant. Et finalement, j'ai consulté un ophtalmo à Paris qui m'a dit « Écoutez, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je vais vous envoyer voir un de mes amis qui pourra éventuellement vous donner un conseil. » Et je vais voir l'ami en question. Et quand j'arrive chez lui, je m'aperçois que c'est un médecin généraliste classique. Donc ce qui m'a étonné de la part d'un ophtalmo, c'est qu'il aurait dû me demander si j'avais un médecin traitant habituel.
Normalement, oui.
Normalement, oui. Et donc je vais chez ce monsieur et il y avait une ambiance assez particulière. Bon, bref, je vois que c'est un médecin et il commence à me raconter sa vie sentimentale. Sa femme est partie, c'est assez compliqué. Bon, je me dis bref, donc je compatis, j'essaye de lui donner des conseils avec ma propre expérience sentimentale. Et il me prend l'attention, il écoute mon cœur, il me fait un examen de médecine classique, hein, générale. Il continue à me parler de sa vie sentimentale, etc. Il me garde une demi-heure, montre en main. Et à la fin, il me dit c'est 250 euros.
200.
Mais... Alors, ça m'a paru extrêmement cher. Surtout qu'il m'avait interrogé sur ma situation, comme vous, au début de l'émission. C'est-à-dire, je lui avais dit, ça fait un an et demi que je ne travaille pas, c'est dur, etc. Donc, est-ce qu'il m'a fait ce prix, salut les copains, parce qu'il estimait que j'étais connu et que donc j'avais beaucoup d'argent sur mon compte en banque? Je ne sais pas, est-ce que c'était un traitement VIP, un traitement de faveur? Et comme je suis un garçon extrêmement bien élevé, j'ai payé.
Ce qui est fou.
J'ai payé les 250 euros, mais je suis sorti de là très mal, parce que j'avais vraiment le sentiment de m'être fait enfler, quoi. Ouais. Et puis je pense que quand on est chez un médecin, c'est comme quand on est dans un sex shop, on est toujours en situation de fragilité, quoi.
J'aime bien la comparaison. Alors,
tu aimes bien le parallèle ou pas?
Oui, j'aime beaucoup, Stéphane. Je pense que je vois d'ici le sketch que vous allez écrire. Parce qu'il y a vraiment de quoi écrire. Alors d'abord, Stéphane a écrit au Conseil de l'Ordre pour demander si tout ça était normal, n'est-ce pas, Stéphane?
Bah oui, parce que j'aime pas l'injustice. Et je trouve que pour le coup, c'est de l'injustice. Ouais. Mais vraiment, je trouve ça dégueulasse de, si vous voulez, de profiter de la fragilité, parce qu'on est en position de fragilité quand on est chez un médecin, voilà, pour demander une telle somme à quelqu'un.
Oui, et puis surtout, alors ce qui est quand même paradoxal, c'est que c'est lui qui vous parlait de sa vie sentimentale, donc c'était vous le psychiatre, et c'est vous le psychiatre qui payait finalement
le
patient, alors que c'est lui qui...
lui demander des honoraires.
C'est vrai que cette histoire est folle, parce qu'un ophtalmo que vous venez voir pour un problème ophtalmo et qui vous envoie chez un généraliste, qui passe une demi-heure à vous raconter qu'il s'est fait larguer par sa femme et qui vous demande 250 balles à la fin de la consultation, effectivement, ça ne doit pas arriver souvent, enfin j'espère, à moins que nous ayons beaucoup de témoignages dans ce sens, et à ce moment-là les auditeurs peuvent effectivement nous écrire. En tout cas, ce que vous avez bien fait, Stéphane, c'est d'écrire au Conseil de l'Ordre, parce que on a le droit au dépassement d'honoraires. On le rappelle en France, il y a des médecins qui sont en secteur 2, c'est-à-dire qui sont conventionnés avec dépassement d'honoraires autorisés. Mais il est bien précisé dans le code de déontologie et dans l'exercice de notre métier que tout ça doit se faire dans des proportions dites raisonnables. On ne doit pas demander n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment. Et demander 250 euros pour une consultation de médecine générale, on s'est effectivement foutu de vous, Stéphane.
Bon, cela dit, Michel, depuis... Pour terminer sur une note positive, j'ai vu de vrais professionnels, un chirurgien formidable que je vais citer, autant je ne vais pas citer le nom de l'autre, autant je vais le citer lui, c'est Vincent Jacomet, et qui m'a réparé la paupière, qui m'a opéré. Ça s'est extrêmement bien passé, je suis de nouveau présentable, et ce monsieur a été formidable. Voilà, je le remercie, et l'anesthésiste aussi a été super gentil.
Eh ben Stéphane, vous êtes présentable, on aimerait beaucoup vous revoir pour vérifier que c'est vrai. Hein, donc on attend avec impatience votre retour soit à la télé, soit sur le téléfilm de TF1, soit sur scène. Merci beaucoup Stéphane et prenez soin de vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Et nous allons continuer avec le jeu, les amis. Nous allons prendre en ligne Alain Pélissier. Bonjour Alain.
Bonjour.
Vous êtes retraité, vous avez 67 ans, vous habitez à Carry-le-Rouet.
Oui. C'est cela.
Ah, ça, c'est dans les Bouches-du-Rhône.
Dans les Bouches-du-Rhône.
D'accord. Alors, vous connaissez le principe du jeu, Alain. On va vous poser une question.
Oui.
Vous avez trois versions et il n'y en a qu'une qui est bonne. Et aujourd'hui, vous cuisinez, Alain ?
Oui, disons, je regarde surtout cuisiner. Ma femme aime bien cuisiner, donc je la regarde.
Et ben comme ça fera un cadeau pour votre femme. C'est un robot multifonction Magimix. Ah. Vous savez, ces robots, vous pouvez tout faire avec, râper, émincer, tout ça. C'est garanti 30 ans. Si vous répondez bien à la question, vous avez un cadeau à faire à votre femme qui ne vous coûtera rien. Voilà.
Ça, c'est génial. Ça.
Alors, les amis, la question, oui, hein, c'est important. Alors, vous savez que depuis quelques années, pour les hommes qui ont un petit coup de mou, il existe une molécule miraculeuse qui s'appelle le sildénafil, qui a permis la commercialisation d'un célèbre médicament, le Viagra. Et avec ça, les hommes retrouvent, entre autres, un moral d'acier.
C'est beau, cette petite pudeur.
Ouais, c'est beau. Ce qu'on ne sait pas forcément, Alain, c'est que les vertus de cette molécule ont été découvertes par hasard. De quelle manière ? Trois versions, deux fausses, une vraie.
Alors, ma version à moi, en fait, les cliniciens étaient en train de tester la molécule pour soigner les angines de poitrine. Alors, les premiers résultats étaient assez encourageants, mais le problème, c'est que les patients n'arrêtaient pas de se plaindre parce qu'ils avaient des érections en permanence, ou presque. Et le labo a suivi la piste, et c'est comme ça qu'est né le Viagra.
Version Christophe.
Alors en fait, figurez-vous que tout a commencé au zoo de San Diego en Californie. Tenez-vous bien. Un jour, le vétérinaire a oublié sa sacoche de médicaments dans l'enclos des gorilles. Et dans la sacoche, il y avait une poudre destinée aux crocodiles. Le gorille, évidemment, a avalé toute la poudre et à partir de là, ça a été n'importe quoi. Elle était gonflée comme une chambre à air tracteur. Il s'est jeté sur toutes les femelles. Ça a duré des heures et des heures. Il y en a même qui disaient, mais enfin quand même. Il a même fallu l'endormir, on l'a piqué à distance avec un fusil, il y a eu enquête, analyse du produit, et ensuite ça a été adapté à l'homme avec des effets, avec les effets que vous connaissez bien sûr.
Très bien, à entendre rire Alain, il vous croit. Version Patrice.
La seule chose vraie dans ce qui précède, dans ce qu'a dit Christophe, c'est que c'est une histoire d'animaux. Et en fait, tout commence au Salon de l'agriculture de Paris dans les années 90. Un taureau venu de Camargue reçoit un prix pour ses talents reproducteurs. Quelques mois après, le taureau meurt, il termine en barbecue et le lendemain, eh bien, tous les participants hommes du banquet ont une crise de priapisme, figurez-vous.
Vous allez nous le décrire, le priapisme, vous nous le définissez ?
Ah ben, c'est quand vous êtes en érection permanente. Oui. Et alors, l'Agence régionale de santé fait remonter l'information, les chercheurs se pensent sur l'affaire, et c'est à partir du sang de taureau, donc, que sera conçu le Viagra. Oui, monsieur.
Oh là 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 là. Ah, c'est bon.
Dire qu'on est écouté par des millions de personnes. Alors Alain, vous avez donc trois versions. Celle d'Emma avec des patients qui avaient des problèmes cardiaques et qui se retrouvaient avec une érection. Le gorille qui a bouffé la poudre destinée au crocodile et la version de Patrice où les amateurs de viande de taureau ont été très très contents d'en manger suite à un barbecue.
Bon, écoutez, moi ma petite fille elle s'appelle Emma.
Oh, quelle magnifique rêve.
Évidemment.
Elle doit être jolie alors. Hein.
Elle est très belle. Hein. Donc, je vais choisir la première version, c'est-à-dire pour le traitement de l'angine.
Et voilà un cadeau.
Bonne idée, Alain.
Un cadeau gratuit pour votre femme. Un robot.
Super, merci tout le monde. Merci RTL.
Un robot multifonction Magimix que vous allez recevoir avec plein de recettes pour faire la cuisine chez vous, pour regarder votre femme s'en servir.
Ah bah bravo. Allez, quelques explications quand même. Le Viagra fait son apparition dans les pharmacies américaines le 1er avril 98, c'est pas une blague. Aujourd'hui, le traitement commercialisé par le laboratoire Pfizer est délivré dans plus de 120 pays. Il a été prescrit des dizaines de millions de fois. Et il y a une rançon à ce succès, c'est évidemment que c'est le médicament le plus contrefait au monde. C'est pour ça d'ailleurs, Christophe, que vous, jamais sur Internet. Hein, vous
non, l'achetez. Jamais.
Ouais. C'est le conseil du jour, bonjour.
Saloperie.
Merci beaucoup, Emma. Merci, Alain.
Merci.
Vous embrassez votre femme. Et vous faites croire que c'est vous qui l'avez acheté, ce robot. Ça sera toujours bien avec lui. OK. Personne n'a entendu. Merci à vous. À très bientôt. Je vous rappelle que nous sommes partenaires du magazine Dr Good avec la couverture de ce numéro qui est en kiosque sur les maux de tête et les migraines, mais à l'intérieur vous avez aussi un dossier sur les allergies, puisque nous sommes en pleine période pollinique, c'est le printemps, vous devez être nombreux à éternuer, à vous gratter un petit peu les yeux, et l'allergie, l'air intérieur aussi est en cause. Vous comprendrez pourquoi dans le numéro de Dr Good en kiosque en ce moment. On a un peu de temps pour des petites brèves. Patrice.
Vous savez que l'OMS recommande l'allaitement jusqu'à 6 mois, mais ça n'est pas toujours possible. Et alors en France, savez-vous quel est le pourcentage de nourrissons qui sont nourris au lait maternel ?
Le pourcentage de nourrissons, allez, 30%, un tiers.
40.
30 à ma droite, 45. 40 en face.
Je dirais personnellement 25%.
Eh bien, c'est le docteur qui a gagné, même s'il n'a pas la bonne réponse, c'est très précisément 19%.
Ah oui, mais non, c'est pas énorme. Hein.
Ouais, ça fait 20%.
Avec les deux seins.
Oui, en même temps.
C'est marrant. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Alors on va rappelle que ça n'est pas Kenji Girac avec Ma Belle Andalouse, mais Kenji Girafe avec, avec Ma Belle Bignouz. Ouais, ouais, c'est formidable. Elle est sympa. Bignouz, oui. La Bignouz, la bibine. La cerveza. La bière, quoi.
Bignouz, pas Bignouz.
Bignouz. Ah, bon, en tout cas.
C'est encore autre chose.
Ça, c'est tout nouveau. Ouais, s'il y a bien un truc qui est très bien, c'est de boire une bonne bière fraîche après la séance, le match, la sortie à vélo. Bien évidemment, tout ça avec modération, mais c'est pas grave, on peut se faire plaisir aussi. Quand on a bien forcé, elle est bonne, elle passe toute seule et en plus, elle n'a, à vous entendre, Christophe, que des avantages.
Ah oui, il y a la longue histoire de la bière avec les sportifs, ceux qui pratiquent le sport et aussi ceux qui le regardent. Alors, on va faire ça sous forme de quiz aujourd'hui. J'ai quelques questions pour vous trois, vous me répondrez et on verra si vous avez tout blond.
Oh.
C'est magnifique.
Ruquier ne vous a pas appelé pour les grosses têtes.
Non, je refuse ces appels, je ne le prends pas au téléphone. Donc, selon l'université d'Harvard, boire une bière de 34 centilitres pour les femmes et le double pour les hommes pourrait réduire de 30 à 40% les vergitures, les problèmes d'aérophagie ou les risques de crise cardiaque.
34 centilitres pour les femmes, donc ça veut dire plus d'un demi-litre pour les hommes.
Voilà.
L'aérophagie.
Non, c'est sur une période avec cette quantité de bière, ça pourrait diminuer donc les vergitures, les problèmes d'aérophagie ou les risques cardiaques.
Moi, je dis l'aérophagie.
Moi, je pars sur les risques cardiaques. Carrément.
Bravo, Patrice. Ce sont les risques cardiaques, évidemment. Autre question, grâce à la présence importante de silicium.
Mais vous allez nous balancer les réponses sans nous expliquer, en fait.
Vous comptez sur moi, peut-être. Bien sûr. La présence de silicium dans la bière, donc grâce à la présence importante de silicium, c'est un élément chimique qui ralentit le vieillissement de l'organisme. Écoutez-moi bien, la bière n'a pas son pareil pour lutter contre les os fragiles, favoriser la miction ou vous donner un teint allé, limite rosé d'ailleurs.
Favoriser la mixture.
Bah ça, en plus, on peut tous témoigner, non ?
Sait, oui, quand on boit une bière, il faut vite se dépêcher pour que ce ne soit pas mixion impossible. Moi, je dirais les os fragiles.
Oui, mais c'est exactement ça. Oui, puisque c'est un élément chimique qui ralentit le vieillissement de l'organisme, qui est le silicium présent dans la bière. Bravo, Michel.
Deux bonnes réponses. La mixion et les os fragiles.
Ouais, bah oui,
c'est l'anti-quiz, en fait.
12 ans d'études.
L'université de Washington, selon une étude, a démontré que les humulones qui proviennent de la dégradation de la lupuline, le principe actif du houblon que contient la bière, ont l'avantage de favoriser la repousse des cheveux, la douceur de la peau au niveau des cuisses ou d'augmenter la sensibilité de l'organisme à l'insuline et ainsi de contribuer à prévenir la survenue du diabète.
Vous pouvez me la laisser ? Parce que je sens que c'est la troisième.
Non, mais c'est pas ça, c'est que je veux juste apporter. Si c'est la repousse des cheveux, vous buvez pas beaucoup de bière, Christophe, on est bien d'accord.
Bien sûr, non. Oui. Emma, vous dites quoi ?
L'insuline, la troisième.
Oui, bien sûr, oui. Alors, évidemment que mon quiz est un peu orienté pour que vous puissiez répondre, parce que je sais très bien que vous êtes un peu juste.
C'est pas une flèche en matière de bière.
Donc ça veut dire, attendez, ça augmente la sensibilité de l'organisme à l'insuline.
Ouais.
Ça veut dire donc que quand on mange sucré, l'insuline agit plus facilement pour faire rentrer le sucre dans les cellules.
Tout à fait. Exactement. Et c'est grâce à ce principe actif présent dans le houblon qui s'appelle les humulones, exactement, avec un H au début. Autre question, des chercheurs chinois ont découvert que le xanthohumol, avec un X devant xanthohumol, un des composés là aussi du houblon.
Quand vous dites xantho, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autre qu'un X au début du mot ?
Ça peut être un Z.
Un CZ.
Et donc, ce xanthohumol, qui est un des composés là aussi du houblon et qui donne son goût amer à la bière, il préviendrait donc les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, la perte de l'odorat ou le célèbre mal du tamalou.
Le tamalou, c'est tellement surréaliste que on va dire le 3. Mais
on avait dit qu'il n'y a pas de prévention des maladies neurodégénératives. Donc le perte d'odorat ?
Non, ça peut prévenir. Ça a un effet, ça aurait un effet. Des études sont en cours là-dessus, j'ai trouvé ça. Sur les maladies neurodégénératives. Ah et bon. Je précise quand même que le tamalou, le mal du tamalou que vous connaissez, c'est quand on a Bobola.
Je suis effondré. Laurent Ruquier vient de m'appeler, il dit finalement il annule votre participation.
Allez,
aux grosses
têtes. Dernière.
Attendez, parce que il faut quand même ce xanthohumol parce que si on écoute ce que vous dites, les gens qui boivent 4 litres de bière par jour, ils se disent je ne ferai jamais une maladie neurodégénérative.
Bien sûr que non, parce que d'abord en buvant 4 litres de bière par jour, vous vous exposez à d'autres problèmes, évidemment.
Voilà, on rappelle que l'alcoolodépendance
est très grave. Voilà. Non, la bière bue dans des dans des proportions raisonnables, qui contient ce fameux composé du houblon, permet justement et contribue à lutter contre les maladies neurodégénératives.
Donc alors, une petite bière par jour sur le plan festif.
Vous savez que les coureurs du Tour de France, quelquefois, à 10-15 km de l'arrivée, peuvent boire une bonne bière fraîche. Alors, ils n'en boivent pas un demi-litre. Mmh. Ils boivent l'équivalent d'un petit boc, justement pour se donner d'abord un petit moment de plaisir, un petit moment de fraîcheur, et un certain nombre de choses qui leur permettent de bien finir la course. Voilà, parce que c'est aussi nourrissant, la bière. Voilà.
Prendre une bière quand vous êtes en train de faire l'ascension du Galibier.
Non, pas
ou
l'ascension
du
Galibier. Ah, quand bon, vous êtes à 10 km de l'arrivée, que ça va être le sprint, que
quand
ça roule,
une descente.
Bien sûr.
Voilà. Non, merci. Voilà. Alors, Christophe, vous m'obligez en tant que médecin à rappeler quand même que l'alcool est délétère pour la santé. Et en même temps qu'il n'y a pas de raison de ne pas se faire un petit plaisir si on aime la bière et de se prendre un petit demi le soir à l'apéritif, ça c'est pas personne, nous en tout cas nous n'allons pas dire ne buvons rien, arrêtons tout plaisir, etc. Mais que toutes les informations très intéressantes que vous nous avez données, c'est sur des petites quantités
tout à
et
fait.
Que ça n'est pas cumulatif et on n'est pas obligé de se mettre dans un tonneau de bière pour retarder l'apparition de toutes ces maladies. Merci beaucoup Christophe. On va vous quitter avec la belle vie.
Ah ouais, quand même.
Sans amour, sans soucis, sans problème.
Avec Sacha Distel, la belle vie.
Oui.
Et oui, la belle vie. C'est la belle vie. Je ne sais pas quand, mais on va y arriver. Passez une très belle semaine et on vous retrouve dimanche prochain à 9h15.
Bisous, bon dimanche.
Bonne semaine.
On s'amuse. À passer sans peur du lendemain.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo.